tous dans ce tiers-lieu où nous souhaitons ramener dans l'espace public l'échange sur les enjeux du numérique dans l'éducation. Donc, aujourd'hui, le thème est l'évaluation. Comment le numérique et l'évaluation s'articulent-ils, sachant qu'il y a à chaque fois ce double mouvement du numérique. Et aujourd'hui, on va discuter du numérique comme objectif d'évaluation et le numérique comme moyen d'évaluation. Lionel, toi, tu travailles activement sur les questions de numérique scolaire. Pouvais-tu brièvement te présenter, puis, comme on dit souvent, que le numérique transforme les phénomènes, discuter de comment l'exercice d'évaluation de compétences à l'école est transformé.
Très bien, merci beaucoup Costanza. Alors, très rapidement, je travaille à la HEB de Fribourg, à l'Université de Fribourg, et effectivement, les questions de numérique en éducation m'intéressent beaucoup, c'est mon objet d'étude actuellement. Aujourd'hui, les questions d'évaluation des compétences à l'aide ou d'évaluation des compétences numériques est évidemment bousculée, parce que on a vu hein, dans la presse, ça a été très populaire décembre, janvier, février, mars, des éléments comme les IA qui permettent de produire des textes, et donc on peut déléguer une grosse partie des compétences que l'on doit démontrer à des artefacts numériques. Mais c'est des réflexions qu'on avait déjà d'une manière ou d'une autre avec les calculatrices, lorsqu'on pensait au calcul mental, mais sauf que cette fois-ci, l'empan des compétences que l'on peut déléguer à la machine s'élargit. Donc effectivement, le numérique ici vient bousculer l'exercice d'évaluation, parce que quand on évalue, on est encore plus aujourd'hui dans la nécessité de réfléchir, évaluer une compétence, dans quel contexte, avec quel outil. Hein, ça veut dire que ce soit au primaire, au secondaire ou au tertiaire, quand je fais passer un examen ou que je demande à un élève ou un apprenant de démontrer une compétence, je dois bien être au clair dans quel contexte et à quel outil. Je pense aux travaux de bachelor, par exemple, aux travaux de master dans une université. Il y a des institutions qui ont décidé d'interdire, d'autres qui ont décidé d'exiger une transparence sur quels outils ont été utilisés. J'ai rédigé mon travail en utilisant ChatGPT à ces fins-là, et d'autres ont décidé de pas du tout cadrer. Donc il y a une prise de position qui est nécessaire ici, parce que le numérique vient bousculer les moyens de produire et de démontrer des compétences. Puis évidemment, l'autre en pense, c'est ces compétences dites numériques, que l'école publique, avec le plan d'études d'éducation numérique, va introduire de manière progressive. Il y a une vraie question sur comment on va évaluer ces compétences-là. Et je me réjouis de voir les choix des écoles au niveau intercantonal. Qu'est-ce qui va être choisi? Est-ce qu'on met des notes? Est-ce que c'est des portfolios? Est-ce que c'est... Enfin, de voir comment ça va être documenté. Ma prise de position personnelle, elle serait plutôt d'orienter vers des démarches portfolio, témoigner des compétences d'usage, des compétences réflexives sur le numérique, etc. Plutôt que de mettre des notes. À mon tour, Costanza, de te poser une question, si tu le veux bien. Toi aussi, tes engagements professionnels t'amènent régulièrement à traiter de l'éducation, de l'évaluation, pardon, et des objets numériques. Pourrais-tu brièvement te présenter d'abord, et puis discuter concrètement quelles solutions apporte le numérique par rapport à l'évaluation aujourd'hui? Serait-on en train d'aller vers un nouveau paradigme de l'évaluation?
Oui, très bien. Moi, j'enseigne aussi à la Haute École Pédagogique à Fribourg, et puis j'ai enseigné plusieurs années dans différentes écoles. Donc, pour répondre à la question, je pense que ce qui est important, c'est de parler un peu de paradigme de l'évaluation, de pouvoir situer le concept dans cette évolution depuis l'existence de l'évaluation dans le contexte historique. Donc, au début, on parlait plutôt de l'évaluation intuitive, après évaluation comme mesure, évaluation des apprentissages, et aujourd'hui, on parle plutôt d'évaluation pour les apprentissages. On est donc dans ce concept d'assessment for learning, on trouve aussi dans la littérature francophone avec ce terme-là aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus spécifique dans ce paradigme? C'est que les élèves, on place l'élève au centre de ce processus d'évaluation et il devient acteur de ce processus, de son processus d'apprentissage. Autrement dit, on se pose la question, est-ce que les élèves, ils ont pris conscience qu'ils ont progressé grâce aux démarches mises en œuvre et aux ressources mobilisées? Et là, il y a là pour moi deux mondes de concepts qui sont très importants, c'est-à-dire les démarches mises en œuvre et puis la ressource mobilisée. Je pense que le numérique pourrait apporter quelque chose, particulièrement au niveau des démarches et au niveau des ressources également. On pourrait en fait imaginer un processus d'évaluation qui commencerait à partir de, depuis le début en fait, du processus d'enseignement d'apprentissage, enfin la planification de séquences, et on pourrait justement imaginer quel type d'évaluation on va mettre en place tout au long de ce processus. On va sûrement commencer par une évaluation diagnostique, donc savoir ce que les élèves savent déjà, une évaluation formative, il y aura une évaluation formative et sommative, mais il y aura aussi des moments de régulation, ce qui est le plus important, de voir comment les élèves progressent par rapport aux objectifs et quel type de régulation on va mettre en place. Là aussi, le numérique, enfin, on pourrait se poser la question, est-ce que les outils numériques pourraient être utiles pour mettre en place une évaluation diagnostique, pour savoir ce que les élèves savent déjà ou pas. Donc, quel type d'outils on pourrait utiliser par rapport aux objectifs d'évaluation afin de bien réguler justement cette offre d'enseignement d'apprentissage et puis la séquence enfin, en soi. Après, on pourrait faire la réflexion est la même par rapport à la régulation, par rapport à l'évaluation formative, par rapport à l'évaluation sommative. Et j'ai envie de parler d'un exemple. On parle souvent de l'évaluation éducation physique, il s'agit de performance des élèves à un moment donné, où l'enseignant il voit performer les élèves les uns et les autres, et puis il évalue, il observe, il note, etc. Mm-hmm. Mais tout se passe trop vite. Après, les élèves ils reçoivent les résultats, peut-être même en feedback pour bien comprendre comment l'enseignant arrive à un tel résultat, mais tout reste un peu abstrait, et puis tout se passe trop vite dans un groupe de gym. Là, on pourrait éventuellement aller chercher des outils numériques, par exemple, tablette, grâce à toutes les fonctionnalités, enregistrement de vidéos, création d'images mentales, et puis l'analyse qu'on pourrait faire des vidéos de performance des élèves et de ces images mentales, on pourrait justement capitaliser soit dans la compréhension des objectifs, soit dans l'analyse de la performance des élèves, soit dans le feedback à donner aux élèves après l'évaluation en soi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste un exemple, mais ça peut être aussi pour faire un exercice de lecture. Donc toi, en fait, là, je vais enregistrer l'exemple qui fait la lecture et qu'on pourrait se servir de cet enregistrement pour donner une autre place à l'élève dans ce processus d'évaluation à travers l'analyse de la vidéo. Et je vais peut-être faire un peu trop long, mais en fait, quand on parle de processus de l'évaluation sortir d'apprentissage, il y a plusieurs concepts qui s'articulent autour, régulation, auto-régulation, évaluation, auto-évaluation. Je pense que le numérique, c'est un très bon outil pour multiplier les démarches et les ressources pour justement intégrer l'élève dans ces concepts régulation, auto-régulation, évaluation.
C'est hyper intéressant parce que si on prend les pionniers de l'internet qui ont voulu démocratiser le savoir, donner accès, l'intention c'est justement ça, c'est de rendre accessible et permettre aux gens de s'encapaciter, s'autonomiser, etc. Mais on prend aujourd'hui les perspectives que le numérique nous offre, notamment via les GAFAM, etc., on est plutôt dans des enjeux de contrôle. Ça veut dire que les positions que tu défends ou que tu avances sont plutôt du type on veut permettre l'autonomisation, on veut permettre aux enfants de grandir, aux apprenants de grandir, de prendre conscience de leurs compétences, d'aller de l'avant. Et donc on retrouve en éducation, quand l'éducation absorbe le numérique, des postures finalement très proches de ces postures originelles du web, de l'internet, etc., et de démocratisation. Enfin, je sais pas si tu vois les choses de la même manière.
Exactement, alors moi je vois les choses de la même manière, et pour moi ce qui est primordial c'est vraiment de questionner la place de l'élève dans ce processus d'enseignement d'apprentissage et dans ce processus d'évaluation aussi. Pour qu'on soit clair, on ne devrait pas parler de l'évaluation du cours, mais de ce processus d'évaluation. Ouais. Donc de savoir comment les élèves ils s'approprient déjà les objectifs d'enseignement d'apprentissage dès le début, comment ils arrivent à entrer dans ce processus de régulation par rapport à ces objectifs. Et d'ailleurs, la littérature le montre, il y a plusieurs modèles en fait, théoriques sur lesquels on pourrait se baser pour intégrer le numérique dans le processus d'évaluation. Alors il y en a plusieurs, mais moi je trouve que celui de SAMP, il est très simple. On le trouve dans la littérature de manière générale, où on pourrait se poser la question, est-ce que le numérique nous sert à substituer, c'est-à-dire à effectuer la même tâche, mais à travers et grâce aux outils numériques.
Oui.
Est-ce que le numérique il apporte une amélioration fonctionnelle, comme l'exemple que je viens de donner par exemple en éducation physique, ou encore le numérique il transforme la classe, enfin de la dynamique et puis les séquences pédagogiques, ou encore la redéfinition, c'est-à-dire le numérique qui permet une nouvelle approche qui était impossible avant.
Dans ces nouvelles approches, ça me fait penser à un courant que j'ai pas mal lu il y a quelques temps en arrière, c'est le database decision making. Donc on collecte des données de manière très régulière, et puis ces collectes de données nous permettent d'orienter à chaque fois nos prises de décision pédagogiques. C'est un peu ce qui se cache derrière le modèle, la solution OURA, hein. Cette idée de collecter régulièrement pour s'adapter, c'est intéressant, mais c'est lourd. Je ne sais pas à quel point c'est possible dans un quotidien d'enseignement où finalement on a, je ne sais pas moi, X heures par jour à enseigner, de faire ce travail-là. Peut-être qu'il y a des solutions qui doivent accompagner ou aider ces nouveaux paradigmes d'évaluation, en fait, d'une manière ou d'une autre.
Alors, il y a des craintes, moi je suis tout à fait consciente que pour certains enseignants et enseignants, le numérique prend davantage et une grande opportunité, pour d'autres, c'est plutôt des freins. Et là, c'est à nous en fait de questionner la place du numérique, mais en amont, par rapport à la formation initiale, la formation continue, et aussi l'équilibre dans les classes. De voir finalement, est-ce qu'on a assez de. Parce qu'on sait que les écoles et que les classes ne sont pas toutes équipées de la même manière. Mais n'empêche, je reste optimiste que plus on a des traces, plus on a des traces d'apprentissage d'élèves, enfin, plus on s'approche de leur boîte noire, et plus on va être efficace dans notre processus d'enseignement d'apprentissage. Peut-être parfois ça nous donne l'impression de perdre du temps, mais c'est pourtant que ça va aider quand même, parce que l'enseignement n'est pas encore plus adapté aux besoins des élèves. Tout à l'heure, la question c'était par rapport au paradigme. Je pense que le numérique est déjà bien de se situer dans ce paradigme d'évaluation, soutien, apprentissage, voire même d'évoluer en intégrant davantage le numérique dans le processus.
Intéressant, intéressant. Extra.
Et toi, Lionel, parlant de la compétence dite numérique qui est très actuelle et qu'on trouve dans la presse et dans toutes les publications qui ont avec la pédagogie. Qu'est-ce que c'est cette compétence numérique et comment
l'élève l'évalue ? C'est intéressant parce que là, donc, on retrouve ce double mouvement que tu as annoncé au départ. On t'a beaucoup parlé du numérique comme solution pour évaluer, puis maintenant le numérique comme objet pour être évalué en tant que tel dans les compétences. Alors il y a évidemment des tas de groupes de travail à tous les niveaux, cantonaux, intercantonaux, internationaux, etc., qui essaient de définir ce que c'est que cette compétence numérique. Avec des positions jusqu'à il y a peu où c'était très opérationnel, hein, être capable d'utiliser un traitement de texte, être capable de faire un montage vidéo, etc. Et on a de plus en plus des positions qui sont plus critiques, être capable de faire des choix éclairés, par exemple, dans ces environnements numériques. Le plan d'études d'éducation numérique en Romandie est assez intéressant qu'il ne parle jamais explicitement de compétences numériques, mais il parle de compétences dans un contexte numérique. Donc il y a cette chose-là qui est ouverte. Maintenant, c'est comment on les évalue, c'est une excellente question. Avant de savoir comment on les évaluer, peut-être qu'il faut savoir aussi comment les enseigner aussi. On a fait un petit travail avec un collègue, Mathieu, de revue systématique de littérature. Est-ce qu'on a des didactiques sur comment enseigner les usages du numérique, et en fait on n'a rien trouvé, que ce soit en français ou en anglais. Alors peut-être il y a dans d'autres langues, hein, mais il n'y a rien qui nous explique ou qui a mis à l'épreuve comment on enseigne le numérique, les usages du numérique. Donc on est face avec la compétence numérique, on est face à quelque chose de honnêtement, même avec tout ce qui a pu déjà être fait ces 10 dernières années, mais quelque chose de relativement nouveau qui vient bouleverser un fonctionnement actuel. Je l'ai dit tout à l'heure en quelques mots, moi je pense qu'une des moins mauvaises idées, c'est de partir sur des démarches de documenter des compétences et des usages. Et puis, alors après, il faut définir lesquelles, hein, via des démarches un peu portfolio. L'élève est capable de, je sais pas, réaliser un montage vidéo, si on reste sur des choses plus opérationnelles. Bon ben voilà, l'élève va le faire, va le déposer sur un drive sécurisé, et puis sur son portfolio, l'élève peut mettre l'URL, et puis il a pu montrer ceci, plutôt que de mettre une note. Mais il y aura évidemment des des compétences peut-être plus délicates, mais qui sont nécessaires quand même de documenter d'une manière ou d'une autre sur ces perspectives critiques. L'élève est capable de poser un regard critique sur un choix de numérisation d'un fait de société, j'en sais rien, X ou Y, ou la place de caméra de surveillance dans l'établissement scolaire, par exemple. Bon, bah, comment on peut faire ceci ? L'élève peut participer à un débat, et puis on enregistre ce débat, donc on retrouve les mêmes usages que tu décrivais tout à l'heure avec l'exemple du sport, mais on enregistre ce débat, puis on revient sur comment tu t'es positionné, est-ce que tu as argumenté tes choix, etc. Et donc, on arriverait peut-être à documenter des compétences de plus haut niveau, d'une certaine manière, réflexives, etc. Donc là, on arrive à quelque chose qui est un peu étrange, parce que la compétence numérique, on va évidemment, dans ce doux mouvement, aller chercher le numérique pour évaluer les compétences numériques. Enfin bref, c'est assez rigolo, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, il y a évidemment tout qui reste à faire, à mon avis. Je travaillais avec Nicolas il n'y a pas si longtemps sur un projet sur les compétences pour faire l'usage du cloud informatique. Puis on se rend compte que finalement, l'idée même de cloud est d'une complexité folle pour des élèves du cycle 3, secondaire 1. Et donc, on doit revenir en arrière sur tout un tas de connaissances qui ne sont pas là, etc. Enfin, c'est extrêmement complexe, en fait. Il y a quelque chose de l'objet technique qui devient d'une telle complexité que derrière, on n'arrive pas forcément à suivre toutes les connaissances et les compétences qui sont nécessaires pour garantir une forme de conscience et d'agentivité dans les usages, en fait. Donc, il y a quelque chose d'un peu effrayant, un énorme gouffre à passer. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a eu la chance, nous, je fais un nous générique, est-ce que je peux inclure tout le monde, j'en sais rien, mais de grandir avec les évolutions techniques. Donc, on se les est appropriés petit à petit. Alors que une personne jeune aujourd'hui qui rentre dans l'adolescence se retrouve directement avec des IA génératives, des capacités de produire des contenus multimédia d'une facilité folle, sans avoir eu toute l'évolution et la compréhension du réseau, des bases de données, de ce que c'est qu'une architecture informatique et du code, etc. Donc c'est un défi qui est particulièrement grand pour la scolarité obligatoire et puis évidemment aussi pour le tertiaire.
Comment faire alors pour aider les enseignants, ceux qui ont beaucoup d'expérience déjà sur le terrain, ils sont peut-être pas à jour avec ce développement technologique, on va dire. En tout cas, ils n'ont peut-être pas le même vécu que les élèves. Eh bien, en tant que parent, enfin, je parle pour moi, ma fille, elle a sûrement plus de compétences que moi, et les élèves en lien avec les applications, les
Sur les usages, oui.
Sur les usages, c'est des questions que je me pose. À quel moment on devrait. Comment retrouver cet équilibre, en fait, entre la société et puis. La scolarité obligatoire.
La question est extrêmement compliquée. Si d'autres personnes veulent répondre, c'est très volontiers. Je pense qu'il y a, évidemment quelque chose de l'ordre de. Le corps enseignant doit modéliser des pratiques réfléchies et critiques. Ça, c'est une première des choses. Mais ça veut dire que derrière. On doit garantir que le corps enseignant formé, enfin garantir, en tout cas tout faire pour, ait une culture numérique suffisamment large pour se rendre compte que tel usage a telle conséquence sur tels enjeux, etc. Et là, je ne parle pas encore de la capacité de faire usage de faire un montage vidéo, de faire un montage audio. C'est vraiment de. Donc voilà. Moi, personnellement, je défends volontiers une approche très culturelle. On doit beaucoup parler de ces objets numériques pour qu'on développe un capital numérique chez beaucoup de gens. C'est pas pour rien qu'il y a ces tiers-lieux et qu'on essaye de ramener ces objets-là à d'autres endroits que dans un cercle fermé du monde académique. Alors, on y arrivera peut-être à force. Mais, voilà. Donc, je pense que c'est un chantier qui est très, très large. Et puis... voilà, la presse participe à ça, différents événements peuvent participer à ça, mais c'est vrai que le corps enseignant souffre, entre guillemets, d'avoir une charge de travail telle que je ne suis pas sûr que dans le quotidien des enseignantes et des enseignants, on a le temps de suivre les évolutions techniques et ces changements, etc. Donc oui, ça va être un défi de taille. Après, chaque canton opère comme il le souhaite. Dans le canton de Fribourg, il y a eu 22 personnes formées qui seront en charge de former tout le corps enseignant ensuite, etc. Donc voilà, après, il y a des opérationnalisations qui sont diverses et variées, avec, on le verra après coup, les pertinences des choix qui ont été menés.
Alors, le TVA, c'était.
Voilà, c'est là-bas. Mais peut-être une dernière question que je t'adresse à toi, puis après, on ouvre la discussion à tout le monde. Tu nous as parlé avant que les objets numériques permettaient d'envisager des pratiques différentes dans l'évaluation. Quelles modalités et quelles pratiques évaluatives te viennent à l'esprit et comment finalement ça change la donne en fait dans un quotidien en fait dans cette.
Oui, alors c'est une question très intéressante parce que dans la littérature on trouve assez de sources en fait sur les modalités et puis les pratiques sur les événements d'enseignement d'apprentissage. Si je fais par exemple la référence au modèle des événements d'apprentissage de Leclerc et Poulenc, qu'on retrouve facilement si on fait des recherches, on se soucie à ce que les élèves, dans notre planification de la journée ou de la semaine, on met assez des événements d'apprentissage. Je pense par exemple à exploration, création, des exercices, imitation, réception, débat, etc. Par contre, si on réfléchit en termes de pratiques évaluatives et les modalités, elles restent encore peu variées, voire pas du tout variées. Par exemple, si je pense à une évaluation de 5 H, je pense à une évaluation de français, de maths, d'histoire. Moi, la modalité qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une évaluation écrite qui va être réalisée sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais peu de modalités en fait, qui sortent des pratiques traditionnelles, c'est que nous, on a connu, ou bien d'autres encore dans les écoles. Alors, je me demande en fait si le moment il n'est pas venu de penser à des modèles d'événements d'évaluation qui soient. Plus diversifié et je pense que le numérique ça pourrait être l'outil qui pourrait en fait nous pousser à aller chercher d'autres ressources et d'autres modalités et de solliciter les élèves davantage pour aller chercher enfin plus dans son environnement d'apprentissage et d'autres types de ressources qui permettraient en fait aux élèves de donner le maximum. Par exemple aussi les événements d'enseignement d'apprentissage sont multiples, est-ce qu'on est sûr que dans une évaluation format papier c'est peut-être pas le bon terme, est-ce que ça permet à tous les élèves de donner le maximum? Peut-être que quelqu'un d'autre, il serait plus à l'aise à l'oral et que finalement il aurait une meilleure note. Mais pour l'instant, on ne le permet pas encore parce que les conditions et puis l'organisation quotidienne ou bien la réflexion ne le permet pas. Alors voilà pourquoi je pense que ce serait peut-être le temps de penser à des événements d'évaluation et pourquoi pas permettre aux élèves un jour de choisir quel événement d'évaluation ils souhaiteraient.
Non, parce que si tu prends tout ce mouvement de la pédagogie universelle, conception universelle de l'apprentissage, Universal Design for Learning, c'est des mouvements qui défendent justement le fait qu'on doit laisser le choix à l'enfant, les manières de témoigner des compétences qu'on exige de lui. Et peut-être qu'on peut offrir différentes modalités pour témoigner de ses compétences, plutôt qu'effectivement la fiche traditionnelle avec le barème, etc.
Exactement. Et je pense qu'avec l'exposé, on sait qu'il y a certains élèves qui sont beaucoup plus à l'aise de prendre la parole et puis de faire un bon exposé parce qu'ils arrivent à créer un contact visuel puis avoir le bon volume de la voix. Et puis alors d'autres, ça va être un exercice extrêmement difficile parce qu'ils sont plus timides, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait moins de fautes que les autres ont fait dans la préparation. Est-ce que là, les outils numériques, ça ne pourra pas être une solution? Par exemple, donner la possibilité à l'élève de préparer l'exposé chez lui et puis de me remettre une copie, enfin, l'enregistrement. Pour qu'on puisse voir justement la différence entre la performance en classe et la performance chez lui. Mais c'est une question que j'en pose, ouais. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, que c'est faisable, que c'est équitable par rapport aux autres. Mais dans cette réflexion de permettre à l'élève d'être acteur dans ce processus d'enseignement d'apprentissage à travers l'évaluation, je pense qu'on peut mobiliser d'autres outils numériques pour lui donner une meilleure place et aussi à travers la c'est-à-dire mieux comprendre les objectifs d'apprentissage à travers la compréhension des critères d'évaluation. Dans le contexte québécois, il y a le portfolio électronique qui est très à la mode en très tôt temps. En ce moment, presque toutes les écoles ont mis en place un portfolio électronique. Mm-hmm. Les élèves, ils documentent leur travail, mais beaucoup plus qu'un archive, c'est quand même un processus d'apprentissage où l'élève il prend conscience des objectifs. Il arrive à créer des feedbacks à ses parents pour voir ce qu'il a appris et ce qu'il devrait encore améliorer. Des échanges avec l'enseignant et puis c'est un document partagé avec les parents aussi. Intéressant. Ils peuvent aller voir la progression des élèves s'ils le souhaitent. Donc ça va être encore un autre exemple de multiplication des événements d'évaluation grâce et puis à travers les outils.
Extra.
Voilà.
Merci.
Oh, mon Dieu.
Oui, ben, ouvrons la discussion à tout le monde, à toutes les personnes autour de la table. Je vous rappelle que pour l'instant, l'enregistrement, on le garde un petit moment et après, on va l'éteindre pour qu'on puisse continuer à discuter de ces objets-là. On a assez papoté, en fait, 25 minutes sur évaluation et numérique. Je ne sais pas si les échanges soulèvent quelque chose chez vous ou si il y a d'autres éléments qui méritent d'être mis en lumière sur ces deux objets numériques et évaluation dans l'éducation et la formation.
Je peux briser la glace.
Volontiers.
Donc, Lionel, tu parles de faire usage d'une approche plutôt culturelle qu'instrumentale.
Oui.
Je reformule correctement. Et qu'en est-il dans ce cas des inégalités produites par la socialisation secondaire, donc des élèves qui seraient plus compétents dans les usages numériques que d'autres. Et donc, si on ne forme pas, au côté instrumental à l'école, où est-ce que les élèves acquérir ce type de compétences?
Merci. Hein. Je pense pas qu'il faille faire un rejet des approches plus instrumentales. C'est pas le but. Mais par contre, le choix de l'école publique de travailler par compétences fait que on est trop que dans ces approches instrumentales et pas dans une approche plus culturelle où finalement on développe des savoirs, un langage commun, une culture qui est communément partagée, etc. Et on est dans l'élève est capable d'eux. Alors oui, il est capable d'eux, l'élève, mais est-ce qu'il sait donc comment il inscrit ses usages, dans quoi, avec quelle intention, etc. Donc je suis pas dans le rejet de ces approches plus instrumentales, plus opérationnelles. Je suis plutôt dans l'invitation à ne pas faire que ça, en fait. Mais c'est vrai, parce que sinon, l'enfant qui grandit dans une famille hyper geek, pardon du cliché, mais qui va pouvoir très rapidement diffuser du streaming, de jeux vidéo, des trucs comme ça, et puis l'autre qui est derrière, dans une famille qui est anti-écran, etc., on va avoir une différence en termes d'usage et de productivité derrière, qui est délicate à défendre. Donc ces compétences très opérationnelles doivent être présentes, ça c'est sûr. Il y a des équilibres à trouver parce que les espaces sont évidemment contraints. Mais voilà, enfin bref. Ouais.
Est-ce qu'il y aurait un lien à faire, comme tu vois, entre l'apprentissage d'une langue étrangère, par exemple, enfin le fait d'être natif, ça veut dire qu'on a compris le fonctionnement de la langue et de la maîtrise de la grammaire,
ouais,
etc. Donc ça peut être un peu plus la même chose. On peut être quelqu'un qui est natif au français, et moi j'ai appris le français par la suite. Au final, est-ce que je sais mieux ou moins bien arriver à ce qui s'est passé? Donc je pense que même si on a des compétences, parce qu'on vient d'une famille où on est familiarisé avec les outils et tout ça, il n'y a pas forcément l'aspect apprentissage des compétences. Mm-hmm. Par contre, il n'y a pas l'apprentissage. Alors que dans la société où on vit, il y a eu plus de ressources, donc il y a plus de compétences, mais dans la société où on vit, il y a quand même cette compétence à travers l'apprentissage qui manque, et puis le réinvestissement peut-être. Mm-hmm. De toute façon, la place à l'apprentissage sera toujours là. Et avec des objectifs clairs, ça viendrait peut-être mettre en équilibre entre ceux qui ont moins de ressources et plus de ressources.
Oui, mais le parallèle à la langue est me semble tout à fait adéquat. Le code est un langage. Et puis qui porte des valeurs, des fonctionnements, des contraintes, etc., qui est inscrit, qui a été développé par certaines gens dans un contexte, etc. Et je pense qu'il y a évidemment des parallèles à mener avec la langue qui sont tout à fait, qui seraient fructueux.
Le terme que je cherchais, c'est l'acquisition. Donc ces élèves-là, ils ont acquis des compétences de connaissance et de l'utilisation.
Ouais.
Par contre, ils n'ont pas vraiment appris. Donc la place à l'apprentissage, elle est toujours là.
Mm-hmm.
Et les objectifs d'apprentissage sont toujours là.
Oui, non, mais moi je comprends bien, parce que moi justement on est dans une logique de ressources, si on est sur les usages et pas dans une logique de compétences. La logique de compétences veut qu'on s'éloigne des ressources opérationnelles, non,
ouais.
Il ne faut pas qu'on s'éloigne, on veut qu'on utilise les ressources opérationnelles pour en faire quelque chose.
Ouais.
Mais la logique de Darmos ou du Lerplan, c'est une logique de compétences,
mm-hmm.
Donc qui nécessite qu'on utilise les ressources pour faire autre chose. Et en fait, en vous entendant, je me disais, mais on est toujours, me semble-t-il, je fais de la provoque, dans une logique de l'outil ou du numérique comme un outil, justement. On l'utilise comme un portfolio. Le portfolio date des années 70. Mm-hmm. On était déjà sur la réflexion, sur l'apprentissage, sur... Quand je m'entends, je me dis, yes, oui, enfin, quelque part. Parce que moi, j'ai l'impression que la question de fond, elle est plus par rapport à l'évaluation.
Oui, tout à fait.
Elle est plus sur la conception, finalement. Parce qu'être dans quelque chose qui permet aux élèves de plutôt utiliser le numérique que la voix, ben avant, on n'arrive toujours même pas à faire passer l'idée qu'on doit plutôt utiliser peut-être de l'écrit que de la voix chez certains.
Ouais.
Même de l'écrit tout bête. Avant de se dire le numérique, il faudrait déjà que les conceptions changent. J'en ai chez moi la difficulté qu'on a à passer dans une logique d'évaluation globale. Mmh. Les gens systématiquement reviennent à l'évaluation de ressources. Si les gens qui forment, peine à se dire on peut évaluer les compétences, ma question c'est mais est-ce que on pointe pas le problème qu'on pourrait vous finalement. Il faut surtout travailler ça et puis le numérique ça deviendra une évidence quelque part, parce que c'est un média parmi d'autres.
Oui, mais c'est là où je peux te rejoindre, mais que partiellement. Le numérique est un média parmi d'autres, mais je pense que ce mot polysémique qui est numérique appelle encore autre chose que un média parmi d'autres, en fait. Et c'est ça appelle des fonctionnements différents, ça appelle un rapport au savoir différent, ça rappelle un rapport l'accountability où je peux donner des traces, des scores qui sont etc. différents, etc. Donc j'aime bien, ça veut dire que tu redéfinis la notion, enfin tu recadres la notion de compétence qui dépasse l'idée de quel outil j'utilise, quelles ressources j'utilise, etc. Mais ça veut dire que derrière, l'institution qui est l'école ne devrait pas imposer un outil numérique figé pour être dans le développement de compétences. C'est une autre manière de le dire avec mes mots qui ne suis pas du tout spécialiste de l'évaluation, hein. C'est qu'actuellement, on formate à certains usages, on ne forme pas au numérique. En imposant une suite propriétaire à tout le monde à l'école obligatoire, on formate à des usages, on ne forme pas au numérique.
Il me semble que du côté germanophone, former au numérique, c'est aussi former au code. Moi, je suis surprise de cette absence, ou de cette non-envie de former au code, finalement. Parce que je discutais avec toi, l'un des informaticiens, qui disait, mais l'école devrait former tous les élèves, y compris au primaire, au code, ça serait
essentiellement le reste, il y a beaucoup d'autres occasions. Oui. Au code,
clairement, avec les robots, avec
choses comme ça. C'est le cas, hein. C'est le cas dans la Romandie, il y a tout le pilier science informatique qui va s'occuper de ça. Alors, dans notre contexte à nous, il n'y a pas l'espace en termes de crédit ECTS pour rajouter des cours, etc. Mais ça, c'est une autre question d'institution, mais c'est le cas. Après, je crois que la perspective romande, elle est justement de ne pas se centrer uniquement là-dessus. Ne pas se centrer uniquement sur le code, parce que ne faut pas oublier toute la dimension média, information médiatisée, qui veut véhiculer des informations plutôt que d'autres, etc. Donc, un rapport construit aux médias. Et puis aussi, toute une partie, qu'est-ce qu'être citoyenne ou citoyen aujourd'hui, dans un monde qui est ouvert à l'international, à l'interculturel, et plus la citoyenneté de village, où je vote à la main levée, je caricature évidemment, mais... donc voilà, il y a d'autres enjeux, mais le code, il est quand même bien présent, à mon avis, dans le plan d'études qui est proposé. Après, il est déployé à des vitesses plus ou moins grandes d'un canton à l'autre. Ouais, le saucissonnage disciplinaire, évidemment, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est clair. Là, le choix en Romandie, c'est de replacer ça comme une discipline, hein, au même titre que SHS et autres. Alors, pour la science informatique, on peut assez voir la légitimité d'avoir placé ça comme discipline. On aurait pu pousser le vice à le mettre ça dans les langues, parce que c'est un code à apprendre. En fait, non. La dimension média, je peux la voir aussi assez facilement dans une dimension disciplinaire, parce qu'on a la science des médias, la communication, le journalisme, on a assez à aller chercher. Par contre, il y a la dimension usage, très opérationnelle, je ne suis pas sûr de voir la raison d'avoir mis ça dans une discipline, mais voilà, il fallait le mettre quelque part, et puis le consensus du fédéralisme romand a fait que c'est arrivé là. Mais... Après, l'enjeu va être de comment on évalue cette nouvelle discipline, comment on certifie le passage d'un cycle à l'autre. Et là, chaque canton sera libre. Il n'y a pas d'imposition à l'intercantonal de mettre des notes. Ça, ça a été décidé. Ce n'est pas imposé de mettre des notes pour cette discipline. Donc, ça laisse libre à chaque canton de faire ce qui est souhaité. Et donc, cette liberté va amener une disparité intercantonale, très probablement.
C'est intéressant parce qu'il y a deux niveaux, donc évaluer le numérique à l'école et évaluer par le numérique.
Oui.
Je trouve intéressant comment le numérique permet, crée-t-il, de différencier plus les évaluations, qui à l'heure actuelle ne sont pas vraiment différenciées. Enfin, on a de la difficulté à différencier, puisqu'on n'a on a pas justement ces connaissances suffisantes. Des compétences. Voilà, juste une petite remarque.
Moi, je pense que c'est intéressant de commencer, hein, de quelque part, et par exemple, de commencer par des disciplines. Toutes les disciplines sont d'égale importance, en fait, à mes yeux, mais par exemple, en musique, au lieu d'apprendre la chanson proposée par l'enseignante, est-ce qu'on peut proposer l'application Garage aux élèves et puis d'essayer de composer quelque chose?
J'avais poussé une collègue qui enseigne la didactique. Ouais, de la musique esthétique pour ordinateur, bien sûr. Ouais, ouais. Alors ça restera, à mon avis, à la connaissance que j'ai de certains environnements scolaires, pas de tous évidemment, ça reste relativement pionnier. Hein, c'est pas des pratiques qui sont généralisées, mais ouais, c'est ça, ouais, qui ont le goût d'innover.
Très ça, mais je suis contente d'entendre que ça existe, c'est super.
Ouais. Après, je sais pas si c'est super, parce que comment dire, j'ai jamais, alors j'ai pas non plus fait un épluchage exhaustif de la littérature, mais est-ce qu'on apprend les fondements de la musique de la même manière lorsqu'on fait de la musique assistée pour ordinateur et lorsque l'on fait de la flûte et du piano? Est-ce que, en fait, l'ordinateur nous déléguerait pas la nécessité, on déléguerait pas la nécessité d'apprendre le solfège à l'ordinateur? Enfin, j'en sais rien. Hein, mon postulat, c'est que ça transforme la compétence parce qu'on peut déléguer une partie. Tu n'as plus besoin de te tenir compte de, des, j'en sais rien, moi, du chiffrage parce que tu règles aussi du 4-4 au début, puis après ça va tout seul, ça te fait les parties. Enfin, j'en sais rien. Et donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que du moment où je fais des choses assistées par ordinateur, la compétence est possiblement un petit peu différente. Bon, hypothétiquement, en tout cas.
Ouais.
Bon,
moi, je reste ouvrir et puis laisser le choix aux élèves, ça peut aider beaucoup d'élèves. Ceux qui auraient un peu plus de plaisir, enfin au niveau de la motivation, c'est les outils numériques. Enfin, il y a beaucoup d'études qui montrent que la motivation est mieux que le monde si les élèves vont travailler avec les outils numériques et tout ça. Bah, alors, s'il y a de la motivation, ça peut améliorer le rapport à l'apprentissage. Pourquoi pas du tout à travers les applications, pas tout le temps à les mêmes chansons. Non plus. Articuler les deux.
Oui, articuler les deux.
Et là aussi, complètement l'inverse. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les élèves ont plus de motivation sur les utilisateurs. C'est le sens d'activité. Fait la motivation. Mais alors, c'est vrai que c'est l'existence des études scientifiques. Et heureusement d'ailleurs, parce que par rapport au tableau noir, aujourd'hui, il y avait beaucoup de résistance aussi. Mais n'empêche, voilà. Mais, et puis je pense que c'est ça qui fait avancer un peu ces résultats contradictoires et puis la réflexion qu'il y a autour et le fait de savoir qu'il n'y a pas juste la bonne réponse mais plusieurs bonnes réponses, tant que c'est adapté au contexte de la classe et aux besoins des élèves, c'est ça.
Et puis ces IA génératives, elles vous, comment dire, elles vous font peur pour la suite de l'éducation, l'instruction, la formation. Quand en quelques prompts, on peut produire plein de choses. Les derniers développements, en quelques prompts, on produit une vidéo. Hein. Ouais. En tout cas, il y a des changements qui vont être importants dans le rapport au savoir, à la production, etc. Moi, j'ai moins de soucis au niveau des coûts, parce que bah, après chaque personne peut ajuster, mais dans les institutions qui formalisent bah, au tertiaire par exemple, un travail de bachelor, un travail de master, C'est beaucoup plus long à s'adapter, évidemment, parce qu'il y a des assises réglementaires. Donc, comment les institutions vont se positionner par rapport à ces travaux-là, alors que, on est franchement aidé, hein, franchement accompagné dans la rédaction des travaux. Et quelle posture on adopte par rapport à ça? Pardon? Oui, alors, voilà, bien sûr. En termes de performance, ça peut que être exponentiel de toute façon. Hein, quelles sont toutes ces tâches que l'on pourra déléguer hein, pour maximiser la productivité?
Moi, je lisais un article intéressant, différent de d'habitude sur ChatGPT. C'était est-ce qu'on aurait besoin en fait d'autant de tests? Enfin, est-ce qu'on a besoin finalement cette IA? Et c'est dans une logique de évolution finalement, enfin des croissances, etc. Et l'auteur interrogeait justement l'utilité de ChatGPT finalement. Est-ce que c'est voilà, ça va nous aider à la productivité, etc. Mais dans quelle mesure en fait on a vraiment besoin d'être encore plus productif? Donc je pense que tu as la réponse. Mais, je trouve intéressant de se poser cette question aussi. Et peut-être qu'à l'école, on peut désapprendre à utiliser ChatGPT plutôt qu'apprendre à l'utiliser.
Mais c'est drôle, moi j'ai contexte tout à fait personnel. Hein, il y a un garçon dans ma famille, c'est pas mon petit garçon, il est pas assez grand pour ça, mais de 13 ans, il a déjà son compte sur ChatGPT et puis il trouve les réponses aux questions que l'enseignant lui donne, les rédactions qu'il doit faire et puis voilà. Puis derrière, l'école et sa latence fait que il peut déléguer une partie et donc il peut avoir des entre guillemets des bonnes notes, mais sans avoir développé les mêmes compétences qu'une personne il y a 4 ans qui aurait dû produire les mêmes choses. Les compétences sont différentes parce que les ressources ne sont pas les mêmes. Et est-ce qu'on accepte aussi, puis ça fait partie de l'air du temps et puis c'est tout, est-ce qu'on change les profils de compétences parce que derrière ce qu'on évalue c'est pas la même chose, enfin, bref, c'est...
Est-ce que l'enseignant qui évalue les travaux, c'est...
Mais même si tu le sais, tu fais quoi?
Pour moi, le produit, il est le même, mais les compétences ne sont pas les mêmes, parce que ce petit garçon de 13 ans, il n'a pas développé de compétences de rédaction de texte de
Mmh. Mais à la hauteur du personnel enseignant, face à ça, tu fais quoi? Tu ne fais rédiger plus que sur papier pendant les heures de classe, etc. Ou... Oui, oui.
La compétence, c'est d'être capable de rédiger un texte s'il utilise une ressource qui est ChatGPT pour faire des
choses. Ouais. Mais tu vois. Mais je vais lui
faire.
Oui, alors, effectivement.
Il a un texte argumentatif et puis l'autre, il a aussi un texte argumentatif. Mais celui qui a utilisé l'application, il n'a pas développé de compétences. Sur un papier, il ne saurait pas écrire un texte argumentatif, il a rien compris.
Très probablement. Et là, alors que ce soit ressources, compétences, selon les mots, je pense qu'on s'entend sur le principe. Pour moi, une vraie question, c'est finalement quelle indépendance ce petit garçon va avoir dans la capacité de produire un texte argumentatif, en fait. Demain, ChatGPT tombe ou devient extrêmement cher, ou la version publique disparaît, il perd sa compétence. Et donc, on crée une forme de dépendance à des outils. Et donc, ça rejoint un propos que j'aimais bien, c'était dans ce discours entre Philippe Mérieux et puis un philosophe, je ne sais plus le nom, qui ont écrit un bouquin ensemble, c'est un échange entre les deux. Et il dit, Philippe Mérieux dit à un moment donné, toute la pertinence des enseignantes et des enseignants, c'est de poser les bonnes contraintes au bon moment. Est-ce qu'une des contraintes, ce ne serait pas une fois de dire, eh ben on le fait cette fois-ci sur papier, sans rien, juste votre tête et un crayon. Alors qu'une autre fois, c'est une autre contrainte, c'est vous faites avec toutes les ressources que vous voulez. C'est de nouveau, c'est gargantuesque. Ça veut dire que si on doit varier les contraintes et les ressources avec lesquelles on produit les mêmes les mêmes compétences, les mêmes ressources, le temps scolaire doit s'élargir, c'est pas possible. On va pas pouvoir mettre ça sur 11 années de scolarité obligatoire, on va devoir faire ça sur plus. Enfin, j'en sais rien. Enfin, moi, ça, il y a quelque chose d'assez bousculant, en tout cas. Dans ce...
Je trouve la métaphore, j'ai envie de dire, on le plus avec d'autres choses. J'aime bien l'exemple, moi, de changer une roue à sa voiture. Donc, crever sur l'autoroute, comment je fais pour m'en sortir? Enfin, je peux changer ma roue en air, ou je peux appeler le SES, ouais. Si j'ai le résultat même. Hein.
Oui.
On pourrait dire, bon, maintenant, tu n'as plus de téléphone portable, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Oui.
Donc on parle de l'idée que la situation où il n'y a personne qui peut m'aider n'existe plus.
Oui.
Est-ce que ça a encore du sens de se dire, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, oui. Est-ce que ça a encore du sens de dire, je dois être capable d'écrire un texte argumentatif
sans cette ressource. Oui, bien sûr.
Ça dépend si tu es en Islande et que ta roue elle pète, tu vois.
Voilà, ben, je pense qu'en Islande ils ont des routes secours et que voilà, j'aurais besoin de ça. Donc peut-être que je vais développer cette compétence dans ce contexte particulier. C'est hyper contextuel,
c'est ça,
c'est
contextuel.
Et elles sont
contextuelles.
C'est ce que tu dis,
les garçons, tu as souhaité. Est-ce
qu'on
doit...
Oui,
après,
ça,
moi, j'ai
questionné les objectifs
de
l'apprentissage.
Oui.
Mais quand on fait des
pages,
dans
ce
cas, mon mari...
Non, alors,
justement, pas. En tout cas, d'ailleurs, je trouve que... on ne peut pas, en tant qu'institution scolaire, dire... On développe des compétences qui sont dépendantes de grosses boîtes nord-américaines. Parce qu'on ne peut pas créer ces dépendances-là, ce n'est pas possible. On a perdu toute une question de... Bon là, je pars sur des discours dithyrambiques, mais de souveraineté, etc. Où finalement, en gros, si on ne change pas de posture, dans 20 ans, le Suisse ou la Suissesse lambda ne sera plus capable de faire quoi que ce soit sans... solliciter des ressources des GAFAM et d'autres. Enfin, y a une vraie question là-dessus qui doit être activée. Et je comprends derrière des formes de résistance du corps enseignant, de déployer numérique, alors que c'est ces enjeux-là qui sont aussi en place. Donc ça veut dire que si on reprend l'objet de notre discussion, l'évaluation, on se doit finalement une même compétence, à cause du numérique, de l'évaluer dans des contextes différents. Contexte où la production de la ressource, elle est libre, contexte où elle est contrainte, où elle est très contrainte, etc. Enfin, c'est... ouais, c'est assez intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on garde de cet échange-là? Qu'est-ce que vous gardez de ces échanges-là qu'on a pu avoir jusque-là? Et puis après, comme ça, on interrompt l'enregistrement, et puis on aura eu une petite heure d'enregistrement. Qu'est-ce que vous gardez de ces échanges-là? J'ai vu quelques prises de notes à gauche
à droite. Restaurant des questions.
Alors pose les questions.
Je suis spécialiste de l'évaluation et moi je voudrais bien qu'elle
conclue. Compétences. Non, ouais. L'évaluation des compétences, je pense que c'est. Enfin, pour moi, la question, elle est là. C'est avant de se poser des questions communes ou quoi, c'est maintenant la question de quelles compétences.
Ouais.
Et je suis d'accord de se dire, est-ce que ça ne doit pas être ces compétences qui sont liées pour moi mais je pense que la compétence éthique, elle est extrêmement importante. Ouais. Et puis je pense qu'il y a tellement de différences dans les ressources que bien sûr, on doit faire un gros travail sur les ressources.
Ouais.
C'est peu gommé dans les ressources. C'est toujours ça. Hein. C'est pas accroître les inégalités.
Ouais.
C'est quand même c'est peut-être le job justement de penser un peu ces éléments-là.
Ouais.
Et puis, mais au niveau de l'évaluation, je pense vraiment partout. C'est pour ça que je disais pour moi la compétence, c'est que encore une fois, je me confonds avec les choses. C'est un outil, au bout d'un moment, de l'évaluer, s'il s'agit de l'évaluer dans autre chose. Quand je t'entendais dire portfolio tout à l'heure, au moins on l'évalue ailleurs.
Oui.
Tu disais être capable d'argumenter sur le bien fondé, on est clairement pour moi français.
Oui, oui.
Mais sur le bien fondé du numérique.
Ouais.
Donc je dis deux, il y a le côté éthique du numérique, mais l'argumentaire, il est en français.
Ouais.
Bon, la compétence finale, elle est dans deux domaines. Et je pense qu'on n'échappera pas à ça, à
tout
l'évaluer
à
dans des situations de choses complexes. Et ça peut revenir à ce que je disais sur les conceptions. On a de la peine à dire aux gens, mais je ne suis pas obligée de la maîtriser tout à fait, cette ressource numérique. Ce qui est important, c'est que je puisse l'utiliser. C'est que je suis compétent avec.
Merci. D'autres take-home messages?
Oh ben, si ce n'est pas le cas, merci pour les échanges sur ces objets-là. C'était notre deuxième tiers-lieu pédago-numérique. On va mettre en discussion quel sera le prochain thème du troisième tiers-lieu pédago-numérique avec l'équipe Create. Et puis, ben, donc, à très bientôt. Merci beaucoup.